Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, Ève, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et la femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc ?» Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme, « Je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière et à la poussière tu retourneras. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu dit à l'homme et sa femme, le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, et qu'il en mange et vive éternellement. » Alors, dans ce parcours sur l'Alliance, je dis au Père Éric, vous avez de la chance, vous savez, à chaque fois, c'est toujours sur Jésus. Moi, c'est toujours le début, les trucs qui vont pas, les ruptures d'Alliance. Alors... Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est la question du péché originel. Et donc, pour la première fois, ce Dieu qui est venu, qui nous a créés pour la communion, il va y avoir une rupture de communion. Il va y avoir une rupture entre ce pourquoi l'homme et la femme sont créés et ce qui va effectivement se produire. Vous voyez, ça arrive au tout début de la Bible, au tout début de l'histoire sainte. Et donc, ce projet de Dieu pour l'humanité, quand vous vous souvenez, hein, là, il y a deux semaines, enfin, du coup, maintenant, c'est-à-dire un peu longtemps, là, il y a deux séances, Dieu vit que cela était bon, tout le projet de Dieu était bon, il y avait, vous voyez, vraiment une complaisance de Dieu dans cette création, la bonté qui se donnait à voir à travers les œuvres, les créatures, à travers l'homme et la femme, qui étaient le sommet de cette création, en vue de la communion avec Dieu. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y a une rupture. Alors, la rupture, elle commence avec une tentation et un mensonge. C'est important de prendre conscience. Vous voyez, ce serpent, le péché originel, ce n'est pas le début du mal. C'est-à-dire que le serpent est déjà là. voyez, ce n'est pas la désobéissance de Adam et Ève à la parole de Dieu qui va être le début de l'arrivée du mal dans un monde où tout était bon. C'est quelque chose d'assez mystérieux. Vous voyez, parce que on y reviendra un peu plus tard dans les séances de caté sur cette question du mal, de la présence du mal dès avant le péché originel. Et vous voyez, il faut noter que en fait le serpent est déjà là. Le serpent n'a pas attendu celui qu'on appelle le tentateur, le diable, Satan. Il n'a pas attendu que Adam et Ève commettent le péché originel pour arriver. Et vous voyez, je ne sais pas si ça vous a frappé en écoutant ce texte, mais il y a quelque chose d'assez intriguant. Il y a un dialogue entre ce serpent et d'abord Ève. Et en fait, le serpent va redonner des paroles de Dieu. Est-ce que ça vous a frappé ou pas? Le serpent parle à la place de Dieu. Dieu, il dit, en gros, Dieu vous a dit que, vous voyez, il se met, enfin, il n'est pas en train d'arriver, en train d'avoir une argumentation qui vient juste de lui. Il prend pour fondement de son argumentation le fait que Dieu ait parlé, et on avait vu ça déjà au début de l'Alliance. Dieu parle à l'homme et la femme, et c'est en cela qu'il fait une alliance. C'est qu'en gros, Dieu crée par la parole, et donc il y a une relation entre la personne à qui Dieu parle, donc c'est-à-dire nous, et nous pouvons aussi parler à Dieu. Nous sommes des êtres de relation. Et Satan va utiliser ça pour, vous voyez, tenter Ève. Alors lui, il va redire une parole, il va dire « Dieu vous a dit que », mais il va falsifier cette parole, c'est ce qu'on appelle un mensonge. Vous voyez, il va dire « Ah bon, Dieu vous a dit de manger aucun des arbres, aucun des fruits qu'il y a dans le jardin », alors que Dieu n'a pas du tout dit ça. Et donc, vous voyez, la parole de ce serpent qui dit reprendre la parole de Dieu est une parole mensongère. Vous voyez, et là, va y avoir quelque chose qui va s'installer dans le cœur de Ève, c'est la méfiance envers la parole de Dieu. Vous voyez, il y a quelque chose de très pervers là-dedans. Quand on repense, vous voyez, à ce projet de Dieu qui était de parler à l'homme et la femme, de faire alliance avec eux, et on se souvient de ce refrain « Dieu vit que cela était bon ». Et là, Satan va utiliser cette même logique, Dieu parle à l'homme, en lui disant « En fait, il t'a menti ». Donc en fait, ce projet d'alliance que Dieu avait avec toi, en fait, il est fondé sur un mensonge et tu ne peux pas avoir confiance dans ce projet-là. Il va lui dire, c'est parce qu'en fait, Dieu, il sait que si vous en mangez, vous allez devenir comme des dieux. Et lui, en fait, il n'a pas envie que vous deveniez comme des dieux. Du coup, en gros, il faut que tu te doutes de sa parole. Mais va manger ce fruit, comme ça, tu deviendras comme un dieu. Et là, tu pourras être vraiment... Vous voyez, il y a quelque chose de pervers là-dedans qui vient complètement falsifier la parole de Dieu et qui vient, et c'est vraiment le cœur de cette première partie, qui vient mettre à l'intérieur d'Ève la peur de Dieu, la défiance en sa parole, la méfiance dans la parole de Dieu, dans le fait que Dieu puisse nous mentir, et c'est quelque chose qui peut nous habiter. Est-ce que Dieu, la parole de Dieu, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que Dieu peut me mentir? Est-ce que Dieu peut me tromper? Et c'est quelque chose qui vient habiter à ce moment-là le cœur d'Ève. Là, il y a cette parole que je vous ai mis là du catéchisme de l'Église catholique. Vous savez, c'est ce... livre de l'Église qui résume, alors résume en 500 pages, mais qui résume la foi chrétienne. Et il dit « L'homme, tenté par le diable, a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur. » A laissé mourir en son cœur la confiance envers son Créateur et, en abusant de sa liberté, a désobéi au commandement de Dieu. C'est en cela qu'a consisté le premier péché de l'homme. Tout péché par la suite sera une désobéissance à Dieu et un manque de confiance en sa bonté. Ça, c'est important parce que, vous savez, parfois quand on passe dans les écoles, qu'on discute avec les enfants, ils disent, en fait, pourquoi manger une pomme, ça fait un péché originel et qu'en fait, après, tout le monde en parle pendant des années. Enfin, c'est pas le fait de manger une pomme, on s'en fout de la pomme. Vous voyez, il y a une désobéissance à Dieu et c'est ça qui est le cœur du péché et le cœur de tout péché par la suite. Vous voyez, c'est la désobéissance envers Dieu. Alors, ce qui est étonnant, je vais passer un peu plus rapidement sur ça, mais je vous ai mis sur la petite feuille, c'est que Ève, elle va rentrer en discussion avec le serpent. Elle va essayer de rétablir la vérité, mais en essayant de rétablir la vérité, elle-même ne va pas dire la vérité. C'est un peu subtil, mais vous voyez, il y avait au centre, dans le premier chapitre de la Genèse, on apprend qu'au centre du jardin, c'est l'arbre de la vie. et qui a aussi un arbre du bien et du mal, mais on ne sait pas où il est. Et elle, en gros, ce qu'elle va dire, c'est que celui qui est au centre, c'est celui-là. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il est au centre qu'on n'a pas le droit de le manger. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur ça, mais vous voyez, même dans la réponse d'Ève, qui veut dire au serpent, bah non, en fait, elle se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, bah, en fait, même elle, elle va déformer la parole de Dieu, elle va placer au centre ce qui n'est pas au centre. Ce qui nous arrive, nous aussi, souvent, dans notre vie, de placer au centre d'une discussion, d'un discernement, de plein de choses, quelque chose, en fait, qui n'était pas du tout au centre. Et du coup, de tout prendre nos décisions en fonction de ce truc qu'on a mis au centre, alors que ce n'est pas l'essentiel. Et vous voyez, parfois, on va être entraîné dans le mal parce qu'on se trompe de ce qui est au centre, de ce qui est l'essentiel. Et du coup, il y a des choses qui vont prendre une place hyper importante dans notre vie, alors qu'en fait, ce n'était pas ça qui était le cœur ni l'essentiel. Vous voyez, Ève, elle va rentrer un petit peu dans cette discussion avec Satan et elle-même le texte ne dit pas si elle le fait sciemment ou simplement de sa part, elle se souvient pas très bien de ce que Dieu lui a dit. On sait pas, mais en tout cas, voilà, elle change elle aussi la parole de Dieu. Et ce qui est intéressant, et je vais finir sur ce premier point avec ça, c'est que le cœur de ce que dit Satan à Ève, c'est qu'en gros, Dieu ne veut pas. Il leur a dit de pas manger ce fruit-là parce que sinon ils allaient devenir comme des dieux. Et vous savez, ça c'est un truc hyper important dans la foi chrétienne, c'est que le but de la vie chrétienne, c'est de devenir comme des dieux. C'est quand même le mystère fou de la foi chrétienne, c'est que par le baptême, nous devenons vraiment fils de Dieu et que la vie éternelle, c'est d'être plongé dans la vie avec Dieu, c'est de vivre de la vie même de Dieu, donc de la vie divine, donc d'être nous aussi comme des dieux. Mais c'est un don de Dieu qui nous est fait. Vous voyez, le projet d'alliance de Dieu avec nous, c'est que nous soyons en communion avec lui, une communion telle que nous soyons plus qu'un avec lui. Enfin, il y a quand même quelque chose de fou, vous voyez, quand on y repense. Et donc, quand le serpent va dire, « Non, mais en fait, si tu manges, tu vas devenir comme des dieux, donc Dieu sait très bien que tu vas devenir son égal, et lui, il n'a pas envie parce qu'il va être jaloux et je sais pas quoi, et du coup, c'est pour ça qu'il t'interdit d'en manger. » En fait, il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit, c'est que on est fait pour devenir comme des dieux. Mais une chose est de dire, en fait, ok, si Dieu m'interdit de faire ça, parce qu'il sait très bien que si je vais faire ça, je vais le devenir, et lui va être jaloux. Ça, c'est la vision du serpent. La vision de Dieu, c'est de dire, c'est un don que je te fais, et c'est pour ça que je t'ai créé, en fait. Et vous voyez, cette désobéissance et cette méfiance par rapport à la parole de Dieu fait qu'en fait, finalement, on va se détourner de ce pourquoi on est fait. Donc ça, c'était le premier point de cette rupture d'alliance, c'est le fait qu'il y ait un tentateur et un mensonge, et que c'est cette tentation et ce mensonge qui vont être à l'origine, vous voyez, de ce détournement d'Adam et Ève de vers Dieu. Alors là, j'aimerais insister sur un petit point, c'est la concupiscence et l'orgueil. Est-ce que ça vous parle un peu ce mot concupiscence ? Hein ? Ouais. Bah, en fait, c'est plutôt l'attrait pour les plaisirs terrestres. Pas que charnel. Mais, vous voyez, en fait, quand on fait un acte bon, le fruit de cet acte bon, c'est le bien, en fait. C'est le plaisir. On a fait un acte bon, et du coup, le fruit de cet acte bon, ce qui vient couronner cet acte bon, c'est le plaisir. On va prendre du plaisir. Et la concupiscence, c'est quand le plaisir est recherché pour lui-même et pas comme ce qui vient couronner un acte bon. Donc on ne va pas chercher à faire un acte bon ou pas, on va chercher simplement le plaisir qui était censé couronner, vous voyez, cet acte que l'on avait posé qui était un acte bon, et on va chercher seulement le plaisir pour lui-même. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'on voit que c'est l'enjeu qu'il y a dans ce texte. Vous voyez, quand Ève va regarder cette pomme, elle va dire il avait l'air bon, il avait un aspect désirable. Et donc, en fait, vous voyez, la question pour elle sera même plus de savoir est-ce que son acte est bon, parce que l'acte qu'elle faisait, c'était un acte de désobéissance par rapport à Dieu. Mais en fait, parce qu'elle va voir cet objet désirable et qu'elle va se dire ça va me procurer du plaisir, elle va le prendre sans se poser la question de savoir si l'acte qu'elle fait est bon ou pas. Et ça, vous voyez, c'est vraiment ce qu'on appelle le péché. C'est quand on ne se pose plus la question de savoir si nos actes sont bons ou pas, et que du coup on commet des actes mauvais pour atteindre un plaisir qu'on aurait pu avoir peut-être différemment, mais en tout cas par un moyen mauvais. Donc, cette concupiscence habite le cœur de toute personne. Vous voyez ? Et donc, il y a d'un côté, dans cette dimension du péché originel, le fait que du coup, Ève va être tentée par ce fruit désirable, et donc elle va chercher le plaisir. Et en même temps, il y a cette dimension d'orgueil qui va apparaître chez Ève, où Ève va du coup, parce que le serpent lui a dit qu'en mangeant ce fruit-là, elle deviendrait comme un dieu, et ben en fait, elle va vouloir prendre la place de Dieu. Vous voyez, c'est les deux aspects du péché originel, la concupiscence et l'orgueil, le fait d'être attiré par le plaisir et de plus poser la question de savoir si l'acte que l'on commet est bon ou pas, et le fait de vouloir prendre la place de Dieu, de vouloir décider ce qu'il faut faire ou pas faire. En fait, Dieu a dit que c'était qu'on avait le droit de manger de tous les arbres sauf de celui-là. En fait, moi, je sais mieux que Dieu ce qui est bon ou pas, ce qui sera bon pour moi. Et donc, en fait, je décide que je vais prendre cette pomme, même si Dieu m'avait dit le contraire. Ça va ? Vous voyez, donc ça, c'est vraiment la volonté de toute puissance. C'est quelque chose qu'on peut retrouver parfois dans certains de nos actes, dans toute notre vie. De voir qu'en fait, parfois, on se dit, ben, Dieu m'a dit telle ou telle chose, et ben moi, je décide, parce que peut-être que je connais mieux, c'est la conséquence du péché, hein. Mais voilà, je connais mieux que Dieu ce qui serait bon ou pas, et donc en fait, je vais le faire. Notons à la fin que Dieu continue de chercher l'homme et la femme. Vous voyez, ça c'est important. C'est que on pourrait se dire, je me souviens d'un gars que j'avais rencontré un jour, je discutais en évangélisation avec lui, et il me disait, moi ce que je comprends pas dans votre foi, c'est pourquoi, pourquoi l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de personnes qui se détournent de Dieu et que Dieu continue d'aller les voir. Il dit, il n'y a pas un truc un peu bizarre dans votre religion? Enfin, Dieu, il ne devrait pas se dire, genre, je leur ai proposé un truc, ils ne veulent pas, ils se barrent, bon, ben, tant pis pour eux, quoi. C'est vrai que quand il me disait ça, je me dis, bah oui, t'as raison. Mais ça, c'est notre logique humaine. C'est pas la logique de l'amour. C'est pas la logique de celui qui a tout donné pour nous, qui veut tout donner pour nous. Donc, vous voyez, Dieu, alors que Adam et Ève viennent de désobéir et de commettre ce premier péché, le péché originel, Dieu, quand même, va dans le jardin et va à la recherche de l'homme et la femme. Où es-tu ? Et vous voyez, ça c'est un truc qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que c'est pas parce que l'on pêche que Dieu arrête de venir nous chercher. Et ça, vraiment, gravez-le dans votre tête, parce que autant, là, tout le monde est d'accord pour dire ça, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord ou pas, je sais pas, mais, non, mais en théorie, tout le monde est d'accord. Par contre, quand parfois la culpabilité est telle dans notre vie par rapport à des actes qu'on a pu faire ou pas, croire réellement et le vivre que Dieu vient quand même nous rechercher, c'est pas si simple que ça. Vraiment, ça vaut le coup de contempler cette bonté de Dieu pour se redire qu'en fait, peu importe ce que fait l'homme et la femme, Dieu continue de venir le chercher. Ça ne veut pas dire que Dieu acquiesce, ça ne veut pas dire que Dieu dit « c'est trop bien, continue comme ça », et c'est ce qu'on va voir par la suite. Mais Dieu ne cesse jamais, jamais de venir chercher l'homme et la femme qu'il a créés en vue de la communion avec lui. Mais voyez, par contre, il y a une division qui s'est installée. Une division entre l'homme et la femme. C'est assez marrant parce que, vous voyez, avant, Dieu, enfin c'est marrant, non c'est pas marrant, mais Dieu nous a créé pour la communion. Donc l'homme et la femme étaient faits pour la communion. Et là maintenant, c'est l'accusation qui va être le mode de communication entre les deux. Vous voyez, c'est en fait, il va demander à Adam qu'est-ce qui s'est passé. Adam va dire mais non, c'est pas moi, c'est Ève. Ève va dire mais non, c'est pas moi, c'est le serpent. Vous voyez, en fait, tout le monde accuse celui d'à côté. Et en fait, on n'est plus du tout dans une communion. On est dans un fonctionnement d'accusation. Où on va essayer de chercher qui est le fautif. Et le fautif, bien sûr, c'est pas soi, c'est toujours le voisin. Et ça, c'est très vrai pour nous aussi. On voit que souvent, dans beaucoup de nos actions, on va essayer de chercher qui est le fautif, qui est-ce qu'on peut accuser pour se défausser un peu de la responsabilité en disant, non, en fait, c'est... Oui, bon, bien sûr, je l'ai critiqué, mais en même temps, c'est pas ma faute, parce qu'en fait, l'autre, il avait fait ça avant, ou je sais pas quoi. Vous voyez, cette logique de l'accusation, c'est vraiment la logique de la division, c'est le contraire de la communion de ce pourquoi on était fait. Et j'y reviendrai un peu plus tard, enfin, juste après, là, mais cette division, elle touche différents aspects de la vie. Donc, je termine juste avec cette citation-là du catéchisme, encore. L'Écriture montre les conséquences dramatiques de cette première désobéissance. Adam et Ève perdent immédiatement la grâce de la sainteté originelle. Ils ont peur de ce Dieu dont ils ont conçu une fausse image, celle d'un Dieu jaloux de ses prérogatives. Donc, voyez, le cœur de ce texte que l'on vient d'entendre, c'est bien de saisir que l'enjeu d'ailleurs, c'est pas d'avoir pris une pomme ou pas pris une pomme, c'est que dans le cœur d'Adam et Ève s'est installée la méfiance envers la parole de Dieu. Et que, poussés par la concupiscence et poussés par l'orgueil, les hommes vont vouloir prendre la place de Dieu en disant, en pensant connaître mieux que Dieu ce qui est bon pour eux, avec ce désir de vouloir prendre la place de Dieu. Et que ça va avoir des conséquences, et notamment des conséquences par rapport à ce pourquoi on était fait, c'est-à-dire la communion. Et bien en fait, maintenant, le mode de relation va être celui de l'accusation, va être celui de la division. Ça va ? On avait réfléchi au Père Éric si vous savez qu'il y a un texte dans l'Épître aux Romains qui est important et normalement qu'on lit toujours en même temps que le texte de la Genèse sur le Christ nouvel Adam. Comment le Christ, vous voyez, pour sortir un peu d'un truc de on lit le péché originel, ça y est, tout est... Mais comment le Christ est le nouvel Adam, il se présente comme nouvel Adam, c'est étonnant parce que Saint Paul, par exemple, il parle du bois de la croix, il fait le lien avec le bois de l'arbre qui était l'arbre du bien et du mal dont était issue la pomme. Donc, vous voyez, il fait un lien entre... Il dit, en fait, il y a un arbre qui a apporté la mort dans le monde, et il y a un autre arbre, celui de la croix, qui va apporter la vie. Il va dire, il y a un nouvel Adam qui a apporté... Il y a un ancien Adam qui a apporté la mort, il y a le nouvel Adam qui est Jésus qui apporte la vie. Donc, souvent, on parle des deux. Là, on s'est dit qu'on le gardait pour l'année prochaine. Vous aurez un an pour patienter avant d'avoir cette deuxième partie. Mais je vous le dis maintenant parce que, vous voyez, il n'y a pas de... Rien n'échappe à Dieu. Et vous voyez, Dieu, la suite de l'histoire biblique, ce n'est pas un Dieu qui court derrière l'homme et la femme en disant « Mince, comment je vais essayer de rattraper mon truc, quoi ? J'ai créé quelque chose, tout part en cacahuète, comment je vais faire pour récupérer le truc ?» Ce n'est pas ça, vous voyez. Enfin, il y a quelque chose d'assez mystérieux. Et beaucoup de théologiens parlent notamment, vous voyez, du fait qu'au moment où Dieu crée le monde déjà en vue de la croix, en vue de la rédemption en Jésus. Vous voyez, c'est pas l'histoire d'en gros un Dieu qui... le truc, c'est en train de lui échapper des mains et il se dit « Qu'est-ce que je vais essayer de faire pour recoller les morceaux, les pots cassés ?» Alors, la rupture au sein de l'humanité. Donc, c'est mon deuxième point. Quelles sont les conséquences de ce péché ? Parce qu'en fait, finalement, le texte qu'on a lu aujourd'hui insiste beaucoup plus sur les conséquences du péché. Alors, en gros... On peut résumer en quatre ruptures fondamentales dans des relations importantes de chaque personne. La première, c'est dans la relation à Dieu. Il y a une rupture dans cette relation avec Dieu. J'ai beaucoup insisté sur ça, mais vous voyez, on va passer de la confiance à la méfiance envers la parole. Il y a une peur de Dieu. Ils vont se cacher, ils vont avoir honte de ce qu'ils ont fait. C'est la culpabilité. Voilà. Je ne m'étends pas sur ça. Retenez bien que Dieu ne cesse, malgré les péchés que l'on fait, de venir à notre rencontre. Mais en tout cas, il y a cette division avec Dieu qui crée la peur de Dieu. Ensuite, il y a une division dans la relation à soi-même. Ça, c'est important, hein. Division dans la relation à soi-même. Souvent, on voit le péché que par rapport aux autres. Vous voyez, quand on demande aux gens, ça veut dire quoi ? Avoir fait un péché, on va dire, je sais pas, c'est avoir tapé son voisin, avoir menti, avoir... En fait, le péché vient mettre en nous de la division aussi. Il n'y a pas que simplement avec notre voisin avec qui on ne s'entend pas et qu'on a envie de taper tous les jours. Donc, vous voyez, blessure dans notre intelligence. On ne va plus trop savoir ce qui est bien ou pas bien. Blessure dans notre volonté. C'est ce qu'on appelle la concupiscence dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est d'ailleurs le fait d'être attiré par le plaisir, non plus comme le couronnement d'un acte bon, mais comme le plaisir pour lui-même. Ça, c'est la volonté. Vous voyez, par exemple, je sais pas, une raclette.
Une chose est de dire, en fait, à travers la raclette, on va passer un temps sympa avec d'autres personnes. Et en fait, bien sûr, il y aura un plaisir gustatif qui va en arriver. Autre chose est de vouloir absolument faire sa raclette et du coup, on s'en fout de tous les autres. On prend le maximum de fromage en passant devant tout le monde. Donc, vous voyez, enfin, en tout cas, la dimension de plaisir est toujours le couronnement d'un acte bon. Et aussi, la mort corporelle, vous savez, qui est la division entre le corps et l'âme. On ne s'étendra pas sur ça aujourd'hui, mais la mort, la définition de la mort, c'est, en tout cas pour les chrétiens, c'est la séparation du corps et de l'âme. Et donc, en fait, c'est le péché qui a introduit cette séparation-là. Ensuite, division dans la relation avec l'autre. Donc, vous voyez, division dans le couple. Hein, c'est ce qu'on a entendu avec ce rapport de séduction et de domination entre les enfants. Donc ça, c'est ce qui viendra juste après. Il y a la jalousie et le meurtre d'Abel par Caïn dans la société. Il y a la tour de Babel qui arrivera juste après. Donc, vous voyez, l'autre n'est plus accueilli pour lui-même, mais l'autre devient un moyen d'arriver à ses désirs, à ses fins. Donc, il y a une perversion là, de ce pourquoi l'homme et la femme qui étaient donnés l'un pour l'autre comme des aides. Va y avoir la division entraîne quelque chose qui fait que vous voyez, la femme par la séduction et l'homme par la domination, il va y avoir quelque chose de mal qui va s'immiscer entre les deux, et donc eux qui étaient faits l'un pour l'autre vont devenir parfois même ennemis, quoi, l'un envers l'autre. Et enfin, dans la relation avec la création, vous voyez, le travail qui était jusqu'à présent, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais Dieu parlait du travail comme la collaboration de l'homme et de la femme à son œuvre. Parfois, on dit que l'homme et la femme sont co-créateurs. C'est un terme fort, hein. Par notre travail, par la façon dont on va user des biens de ce monde, nous sommes co-créateurs, nous participons à la création. Et ben là, on voit que la division avec la création fait que cette co-création que nous étions appelés à vivre, en fait, devient un travail laborieux, pénible, jugé mauvais. L'homme va travailler à la sueur de son front. Il y a quelque chose de pesant qui arrive. Okay, donc, vous voyez, il y a ces quatre dimensions fondamentales, ce qui fait que c'est intéressant quand on se pose la question de savoir est-ce que je fais des actes... Enfin, que mes actes bons... Vous voyez, quand on essaye de se poser la question est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas bien, tout ça, il n'y a pas juste la question de est-ce que, en gros, j'ai pas tapé mon voisin, il y a aussi par rapport à soi, par rapport à la création, par rapport à Dieu, il y a différentes dimensions, et le péché touche toutes ces dimensions. Alors, je termine avec la question de la transmission du péché originel. C'est une des questions qui a le plus occupé les théologiens, moi, j'exagère un peu, mais en tout cas qui a occupé beaucoup de théologiens pendant très longtemps. Comment un péché qui a lieu il y a... fait qu'aujourd'hui, nous sommes marqués par ce péché. Qu'est-ce qui fait, en fait, que ce qui nous est raconté dans la Bible, là, en fait, quel est le rapport avec nous aujourd'hui ? On pourrait très bien se dire, ok, c'est un exemple de péché qui nous est donné. En fait, effectivement, nous, on peut commettre ce péché ou d'autres, mais on pourrait aussi très bien ne pas du tout les commettre et donc avancer comme ça. Vous voyez, cette question de la transmission, c'est une question qui est importante de se poser aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que on voit bien que les conséquences de ce péché, on les vit. Mais est-ce que ce péché nous marque réellement, ou c'est que simplement les conséquences qui sont arrivées jusqu'à aujourd'hui, et donc ces quatre grandes divisions qui ont marqué Adam et Ève, en fait, on les vit sans avoir à vivre nous-mêmes le péché originel. Oui, c'est un peu ça la question. C'est est-ce que c'est simplement les conséquences de ce péché qui sont transmises, ou alors est-ce que c'est vraiment le fait d'être marqué par le péché originel ? Et ça, vous voyez, il faut le retenir, et c'est important, parce que sinon on ne comprend pas, par exemple, pourquoi un bébé qui vient de naître a besoin d'être baptisé. Vous savez que le baptême, c'est le fait d'être racheté du péché originel. Le baptême, parmi nous certains se préparent au baptême, le baptême, c'est le fait d'être racheté du péché originel. Alors on pourrait se dire, bah ouais, bah effectivement, moi je suis adulte, et donc, je sais pas, depuis 15 ans, oui, j'ai fait des bêtises, oui, j'ai fait des conneries, oui, j'ai fait des péchés. Bon, du coup, j'ai besoin d'être racheté de ce péché-là. Mais un bébé qui vient de naître, qui est baptisé à un mois, Ne sait pas parler, qui ne sait rien faire de mal. Qu'est-ce qui fait qu'il a besoin d'être racheté du péché originel?
Vous voyez, la réponse que va donner notamment un théologien qui s'appelle Balthazar, et qui va faire qu'en gros, qui va clôturer, vous voyez, de plusieurs siècles de réflexion. Vous voyez, il y en avait qui disaient, par exemple, l'homme n'est super bon, l'homme n'est bon, et en fait, c'est la société autour de lui, ou alors, au contraire, c'est, vous voyez, qui vont faire qu'en fait, l'homme, petit à petit, va devenir mauvais. Ou alors, par exemple, Luther, lui, ce qu'il dira, c'est, vous voyez, l'homme n'est mauvais, par lui-même, il ne peut pas faire le bien. Et donc, il a absolument besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir faire ne serait-ce qu'un acte bon. Et donc là, il va y avoir d'abord, avant Balthazar, il va y avoir le Concile de Trente, vous voyez, qui va rappeler que l'homme conserve sa liberté, vous voyez, il a la liberté de faire le bien, même marqué par le péché originel, même quelqu'un qui n'a pas été racheté par le baptême, conserve sa liberté de pouvoir faire le bien ou le mal, mais est incliné à faire le mal. C'est-à-dire qu'il fera plus facilement le mal que le bien. Ça, c'est peut-être une expérience que l'on vit, c'est que faire le bien nous coûte parfois beaucoup plus que faire un acte mauvais. Parfois, il y a quelque chose, ouais. Moi, je me souviens d'un prof de théologie qui m'avait donné comme exemple, il avait dit, c'est comme une partie de baby-foot dans une pente, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà joué c'est avec un baby-foot qui était penché. Mais quand vous êtes dans l'équipe qui est un peu plus vers le bas, bah oui, il faut taper beaucoup plus fort sur la balle pour qu'elle aille dans la cage adverse ou je sais pas quoi. Et inversement, celui qui est de l'autre côté, la balle descend beaucoup plus. Vous voyez un peu l'image ou... je vois tous comme ça sans bouger. Ok, donc vous avez pris cette image-là du baby-foot, vous avez parlé, vous peut-être pas, mais. Et donc voilà, il disait en fait, effectivement, il y a cette inclinaison pour nous à commettre plus facilement le mal, mais on reste quand même libre. Et donc Balthazar, lui, vous savez ce qu'il va dire pour parler de cette transmission du péché originel? Il va dire que ce n'est pas quelque chose qui se transmet, mais c'est quelque chose qui ne s'est pas transmis. J'ai fait la même tête que vous, avant. Non, mais en fait, vous voyez, il y a... Moi, j'ai compris ça avec l'image de la carie. Un jour, je discute de ça avec un dentiste, et le dentiste m'explique... Moi, je pensais qu'on disait « j'ai une carie », c'était un truc en plus qui se mettait sur notre dent. Et donc le dentiste me dit « non, pas du tout, une carie, c'est un trou dans notre dent. C'est pas un truc qu'on a en plus sur la dent, mais c'est un truc qu'on a en moins, c'est un trou qu'on a dans notre dent. » Je sais pas, il y a un médecin ici. Vous voyez, c'est ça. Donc en fait, quand on dit « j'ai une carie », on n'est pas en train de dire « j'ai un truc en plus sur ma dent ». On est en train de dire « en fait, j'ai un trou, j'ai un truc qui me manque ». Vous voyez, quand on dit que le péché originel, c'est pas quelque chose qui se transmet, mais c'est quelque chose qui ne s'est pas transmis, c'est la même chose. Quand on dit « je suis marqué par le péché originel », c'est pas un truc en plus qu'on a, vous voyez, comme une malformation qui serait en plus de nous, un troisième bras ou je sais pas quoi, mais c'est quelque chose qui aurait dû être transmis, qui est le fait d'être en communion avec Dieu, et qui n'a pas été transmis par Adam et Ève, parce qu'ils l'ont perdu, et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ils ont perdu cette communion avec Dieu, et seul Dieu pourra nous remettre dans la communion avec lui. Donc quand on dit qu'un petit bébé a besoin d'être racheté du péché originel, on n'est pas en train de dire qu'il est marqué par quelque chose qui pèse dessus, qui serait le poids des milliards d'années de péché, de je sais pas quoi, qui est le pauvre petit, peu cher, il n'aurait rien demandé, il est pour porter ça, tout ça sur lui. Mais il y a quelque chose qui ne lui a pas été transmis, qui est le fait de la capacité d'être en communion avec Dieu. Et c'est pour ça que le baptême, c'est le rachat du péché, mais c'est surtout le fait de redevenir fils et fille de Dieu. Ça va ? Je m'arrête là. On peut vous prendre un temps là de questions, peut-être réponses, en cas de questions. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là ? Ouais.
Le principe du fait que ce soit un péché de cueillir un fruit qui soit genre l'histoire de la connaissance du bien et du mal.
Ouais. Ça, vous savez, c'est intéressant, la question de... Donc, ce que je disais, c'est qu'en fait, le péché en soi, c'est pas d'avoir pris la pomme, c'est d'avoir désobéi à Dieu qui disait, en fait, en gros, vous avez le droit de prendre de tous les fruits sauf de celui-là. Après, on peut se poser la question, pourquoi Dieu dit, ne prenez pas de celui-là. Vous voyez, le péché ne se situe pas sur le fait que, en fait,
fait, est-ce que la parole de Dieu était légitime ou pas? Et le péché, c'est vraiment la question de la désobéissance, le fait d'avoir pris cette pomme-là, enfin ce fruit-là, qui était le fruit que Dieu avait interdit. Après, ensuite, on va se poser la question, pourquoi Dieu permet de prendre de tous les aliments, sauf de celui-là? Et ça, c'est un développement qui est assez récent, notamment dans la question de la doctrine sociale de l'Église. Vous savez, c'est comment on se positionne dans la société pour des actes bons, tout ça. Et avec une notion qu'on appelle la notion de bien commun. Et en fait, on a rappelé que le bien, en fait, c'est pas quelque chose de relatif. Le bien, on reçoit ce bien. C'est pas que, enfin, vous voyez, moi, je pourrais pas dire ça, c'est bien. Et un tel vient voir en disant, oui, pour toi c'est bien, mais pour moi c'est mauvais. Pour moi, le bien c'est tel ou tel. En fait, le bien, vous voyez, il y a quelque chose de qui n'est pas relatif. Le bien est objectif et il nous est donné par Dieu. Et donc en fait, on va relire souvent ce fruit-là comme le fruit de celui qui va pouvoir dire, en fait, ça c'est bien et ça c'est mal. Alors en fait, ça c'est quelque chose qui nous est reçu de Dieu. Je ne sais pas si ça répond un petit peu.
Oui. La question de connaissant le bien et le mal, est-ce que du coup manger le fruit, enfin, on s'entend, veut dire connaître le mal là où il n'était pas connu avant, qu'est-ce que veut dire connaître? Est-ce que c'est d'être passé à l'acte? Est-ce que c'est le connaître, le comprendre
ouais, vous avez entendu la question ou
Je sais pas si
c'est de la... Si, si. Ouais. Bah, en tout cas, moi je t'avoue, j'ai pas tellement creusé cette question-là. Ce qui est sûr, c'est que la compréhension de ce passage-là, ça n'a jamais été trop dans cette question-là de l'expérimenter, mais plus le fait de, du coup, dans le fait de choisir et de dire soi-même, soit en fait d'être celui qui va donner cette règle du bien et du mal. Pas tellement, mais après, j'avais jamais entendu cette autre interprétation qui est peut-être.
Ouais, en fait, j'en sais rien, mais je me dis dans les traductions comme. Je sais, connaître un homme ou une femme, c'est...
L'expérimenter aussi, ouais.
L'expérimenter dans l'intimité d'eux. Ouais. Est-ce que là, il y a quelque chose de commun ou pas du tout, et c'est un autre mot...
Je sais pas si vous, Père Eric, vous avez un truc par rapport à ça, mais...
Ouais.
En tout cas, moi, j'ai jamais entendu cette interprétation-là, donc je pourrais pas te dire, mais...
Est-ce que connaître le mal en soi, c'est pas bon, ou est-ce que c'est...
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un enjeu de vie et de mort derrière. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu dit à chaque fois, sinon tu mourras. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, c'est là où il faut bien comprendre ensuite dans la question de la division des péchés qui est, et cette mort qui habite l'homme. C'est qu'en fait, l'enjeu là-dedans, c'est pas de dire, bon, en fait, on suit un Dieu qui est, ok, il nous a créé pour la communion, en même temps, il est en train de nous mettre on a des interdictions de partout, on peut pas. Enfin, l'enjeu derrière, c'est. Écouter la voix de Dieu, c'est suivre le chemin de la vie. Hein. Il y a, vous savez, dans Deutéronome, un des livres de la Bible, il y a ce passage-là qui dit, en fait, voici que je mets devant toi deux chemins, celui de la vie et celui de la mort, choisis la vie. Vous voyez, là, à ce moment-là, il y a aussi Dieu qui dit, d'une certaine façon, en fait, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et en fait, en choisissant ce chemin-là, c'est le chemin de la mort, quoi. Et donc, qui est lié à cette désobéissance, mais... Ouais.
Comment, du coup, on sait qu'est-ce qui est péché ou pas?
Comment on sait ce qui est péché ou pas?
Parce que, du coup, dans les principes, on peut savoir, mais il y a des choses qu'on peut interpréter ou non.
Ouais. Alors là, ça c'est important, c'est une question de... Je répète la question? Ah oui. Donc, la question... Tu peux me rappeler ton prénom?
Laurent.
La question de Laurent, c'était comment on peut savoir ce qui est péché ou pas? Parce que là, effectivement, on a bien dit que c'était pas le fait d'avoir pris une pomme qui était... si demain, vous prenez une pomme sur un pommier, c'est pas ça qui fait que vous commettez un péché. Donc, le péché, vous voyez, il y a une dimension objective de mal dedans. Donc, le travail qu'on a à faire comme chrétien, c'est d'éclairer notre conscience. Et notre conscience, c'est la petite voix au fond de nous qui va nous aider à discerner ce qui est bon et mauvais. Et donc, notre travail, notamment de catéchumène, et puis ensuite de chrétien, tout au long de notre vie, et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est l'ordre de la conversion, enfin, tout au long de notre vie, c'est d'approfondir cette connaissance que l'on a du bien et du mal, donc de nourrir notre connaissance, et donc, il va y avoir, tu vois, les grands balais, c'est les 10 commandements, mais ensuite, on va affiner de plus en plus pour savoir discerner dans chaque situation ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est un travail... d'éclairer sa conscience pour qu'en plus, tu vois, je parlais de l'intelligence qui était blessée, Et ben en fait, c'est vraiment un travail, vous voyez, de redécouvrir, de par notre intelligence, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, de façon objective. Et après, vous voyez, il y a aussi des questions de situation, il y a plein de choses, et là, ça va être l'enjeu du discernement, et c'est pour ça qu'on avance avec d'autres, tout ça, parce qu'en fait, dans parfois un mal objectif, ben, vous voyez, dans certaines situations, eh ben, on va le traiter de façon très différente en fonction de chacun. Et donc, c'est là aussi, vous voyez, où il y a toute une dimension de grandir dans le discernement comme chrétien. Mais donc, notre travail, nous, c'est de creuser cette question du bien et du mal de façon objective, quoi. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas.
Je sais pas si... T'as pas l'air... Je vais une autre question, mais je suis pas con à la formule.
On va prendre une autre, si tu veux.
Ouais. Dans la question de la nudité, quand ils ont ouvert les yeux, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Souvent, dans la Bible, l'habit représente la nudité. Est-ce que là on est sur une métaphore, ou alors est-ce que c'est complètement différent cette notion de nudité? Ouais.
Ça, c'est le pape Jean-Paul II, hein, qui a beaucoup parlé de cette question de la nudité d'Adam et Ève. Et notamment, lui, il en parle comme vous voyez, ce regard blessé. On parlait de la domination de l'homme sur la femme et de la femme avec la question de la séduction. Et donc, en fait, ce regard blessé par le péché, et donc toutes ces divisions dont on a parlé, division entre soi-même et division aussi entre les uns et les autres, fait que du coup, cette question de la nudité va être maintenant un lieu de. Aussi, ce qui était fait pour pas être forcément un lieu qui était un lieu de communion devient aussi un lieu de division, quoi. Donc je pense qu'en tout cas, cette nudité d'Adam et Ève et ensuite cette honte liée au péché, ben, vraiment toutes ces questions de division qu'il y a entre l'un et l'autre. Et donc, justement, il n'y a plus un rapport chaste entre l'un et l'autre. Il n'y a plus. C'est dans les quatre divisions dont on parlait, il y avait le fait vraiment d'être, même à l'intérieur du couple, de voir qu'en fait le péché s'était immiscé et qu'il y avait quelque chose du coup qui était genre de quelque chose de plus ajusté, ce qui n'était pas le cas avant ce péché-là. Mais donc, toi, ta question, c'était le fait que le vêtement représente la dignité, donc ça veut dire qu'en gros, avant, ils étaient moins, je sais pas...
Non, c'est pas ça, c'est le fait de se rendre compte qu'ils sont nus.
Ouais.
Est-ce que ça veut dire que... qui voient une indignité chez l'autre, ou qui veulent cacher une honte qu'ils portent.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont honte, parce que c'est le texte qui nous le dit. Je pense pas. En tout cas, je pense que c'est vraiment à voir par rapport à cette question de division entre l'un et l'autre, et du coup un rapport faussé, à la fois de domination, de séduction, de... Ouais.
Moi, j'avais une autre question, c'était qu'on parle beaucoup dans la religion que Dieu est tourné sur le pardon.
Ouais.
C'est vraiment important de pardonner.
Ouais.
Et là, sur la punition qu'ils reçoivent, elle est violente et elle est même transmise sur... les générations d'après.
Ouais.
Et j'ai du mal du coup à voir où il est le pardon en fait par rapport à ce péché là.
Ouais. C'est pour ça qu'à un moment je vous ai la petite pause là sur l'épître aux Romains en vous disant qu'on vous en parlera l'année, dans les séances là, pour l'année prochaine quand on approfondira cette question là. Vous voyez, il faut toujours avoir vraiment cette vue d'ensemble sur le fait que quand la nuit de Pâques on dit cette parole magnifique, on dit « heureuse faute », donc Adam et Ève, « qui nous valut un tel sauveur ». Mais cette parole assez folle, hein, de dire « heureuse faute », donc « heureux péché », donc avec les conséquences, tout ça, « qui nous a valu un tel cadeau de la part de Dieu », qui était ensuite la venue de Jésus, qui est venu réparer ce qui avait été brisé. Donc tu vois, cette dimension de pardon de Dieu... Ce qui est sûr, c'est que là, le texte nous montre que, en fait, concrètement, il y a des conséquences, et on le porte, nous, encore aujourd'hui, dans ces divisions qui ont été, dans cette méfiance par rapport à Dieu. Mais ce n'est pas pour ça que, du coup, Dieu nous abandonne dans cette condition-là. Et qu'aujourd'hui, le pardon que Dieu vient nous donner, notamment en Jésus, par le baptême, à la fin, là, je terminais avec cette question de ce qui n'a pas été transmis, c'est le fait qu'on soit fils et fille de Dieu, bah, le baptême vient nous redonner cette chose-là. Ouais.
Juste pour compléter, je dirais, mais du coup, peut-être ne pas. Enfin, est-ce que c'est considéré vraiment que c'est une punition de la part de Dieu ou un constat qu'il fait, et qu'au contraire, lui, il continue de chercher Adam et Ève, et comme tu disais, vient même l'habiller et le. Enfin, et
ouais.
Encore là pour lui. Et c'est simplement la conséquence de ce que Adam et Ève ont fait. Enfin,
ouais, non, mais c'est vrai ça. Ouais. temps pour une dernière petite question. Bon, les deux dernières, là. Ouais. Vas-y.
C'était juste pour... tout à l'heure, vous avez dit que Dieu avait peut-être créé le monde pour la croix.
J'ai pas dit peut-être, ouais.
J'ai dit
ouais.
Ça au moment. Et pourquoi pas avoir fait un monde parfait alors dès le début pour éviter...
Est-ce que le monde était parfait dès le début ? Ça, c'était, c'est une question qu'on s'était posée il y a un mois, là, dans la deuxième séance. Dieu a créé le meilleur monde possible. Enfin, Dieu, vous voyez, Dieu aurait pu créer un monde très différent. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Dieu l'a créé par amour et a créé l'homme et la femme par amour et donc libre. Et donc, en fait, Dieu savait qu'il y avait cette possibilité pour l'homme de se détourner de lui. Mais, vous voyez, c'est la logique de la création par amour, quoi. En fait, Dieu aurait pu créer un monde où, en gros, on n'avait aucune liberté, enfin, où l'homme et la femme, où la création n'aurait aucun libre arbitre, en fait, aurait été prédestiné d'avance à faire tel ou tel acte, et donc Dieu aurait conduit, selon telle volonté, ce monde-là. Mais Dieu, comme il nous a créé par amour, il nous a fait participer à son œuvre. Et c'est pour ça qu'il nous a créé par alliance, hein. C'est pour ça qu'on parle tellement de l'alliance, c'est qu'en fait Dieu nous a placés en partenaire en face de lui, partenaire capable d'accepter cette alliance que Dieu donne, et aussi partenaire capable de refuser, de se détourner de l'alliance qui a été proposée.
C'est toi qui as la main. C'était sur la relation avec toi-même, en quoi la rupture de l'alliance
entre elle et
la mort corporelle.
Pourquoi? Attends, je t'ai entendu.
En fait, ça engendre la mort corporelle et la division du corps.
Et de la... Ouais. Alors ça, c'est une question. Nous, on avait passé 3 heures sur ce sujet-là dans un cours de théologie sur ces questions-là. Parce que vous voyez, par exemple, je me souviens de notre prof qui avait commencé en nous disant la mort faisait partie du plan de Dieu bien avant le péché. Et il y avait un moment où Adam et Ève, même dans le jardin d'Éden, auraient... il y aurait eu une fin et une rupture et quelque chose de différent dans leur vie. Apparemment, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment une question pour le coup où, qui n'est pas unanime sur ces choses-là. Ce qui est sûr, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, il y a une angoisse par rapport à la mort, il y a des souffrances liées à la mort et. Et donc, tu vois, c'est plus la mort vécue comme ce temps de souffrance et de qui est justement le péché, enfin, le fruit du péché. Parce que, tu vois, enfin, moi, je me souviens de ce prof qui nous racontait qu'en gros, la mort simplement vue comme le passage de ce monde à la vie éternelle, en dehors de la question du péché, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est vrai que du coup, par le péché, par cette question là de la peur de Dieu, la peur de... En fait, il y a une angoisse face à la mort, face à... Ouais.
Pourquoi l'arbre du bien et du mal?
Pourquoi l'arbre du bien et du mal?
Pourquoi il est là?
Pourquoi il est là? Mais pourquoi pas? C'est vrai, hein, il y a cet arbre-là, il y a l'arbre de la vie à côté. Alors, je tiens quand même à rappeler, c'est ce qu'on avait, un petit peu incité sur ça la première séance sur la Genèse, que ces premiers chapitres de la Bible, vous avez parlé de la question notamment du comment et du pourquoi. Et que le fait qu'il nous donnait le sens de la création, il ne nous expliquait pas le pourquoi de la création. Ça, vous vous souvenez de ça ou pas?
Oui.
Peut-être, non, je vais peut-être qu'ils font des regards un petit peu bizarres. J'avais donné l'exemple du gâteau au chocolat que le père m'avait partagé, mais il m'avait dit une chose est quelqu'un te fait un gâteau au chocolat, une chose est de dire ah, mais trop bien, mais en fait, comment tu l'as fait? Et là, je vais te donner la recette, je vais te dire bah, 200 grammes de cidre, tac. Autre chose, et dire, bah, en fait, pourquoi tu m'as fait cela? Et dire, en fait, j'ai fait ça parce que je t'aime. Et en fait, Dieu, quand il y a ce récit de la création et des premiers livres de la Genèse, on est dans la dimension du pourquoi de la volonté de Dieu, Dieu qui crée le monde. Pourquoi il crée le monde? Parce que cela est bon en vue de cette alliance. On n'a pas la dimension du comment, c'est-à-dire qu'en fait, la volonté de la Bible n'est pas de nous raconter comment le monde s'est créé.
Et donc encore une fois, tu vois, avec ce jardin et notamment cet arbre du bien et du mal, c'est pas un truc, un arbre dans un jardin où effectivement si tu prends cette pomme, c'est pas très clair ce que je dis là. Mais enfin, en tout, vous voyez, on n'est pas dans le comment ça s'est passé, mais dans le pourquoi. C'est-à-dire que la volonté derrière de ce texte de la Bible est bien de nous montrer que si je veux me faire moi-même Dieu, c'est-à-dire celui qui va pouvoir dire ce qui est bien et ce qui est mal, c'est ça qui conduit ensuite à le péché de désobéissance, l'orgueil dont on a parlé, le fait de vouloir se faire Dieu à la place de Dieu. Donc l'enjeu de cet arbre-là du bien et du mal, c'est surtout l'enjeu de, en fait, c'est l'homme, la créature qui veut prendre la place du créateur, qui veut prendre la place de celui qui dit ce qui est bien ou ce qui est mal. Vous avez vraiment la dernière question cette fois.
J'ai une question sur la...
Ouais.
J'ai bien compris de l'idée que du coup c'est rechercher le plaisir en tant que tel sans se détourner de l'absolu.
Ouais.
Et avec la métaphore de la raquette, super. Par exemple, dans la vie de tous les jours, enfin, je sais pas, on va regarder une série, on va jouer aux jeux vidéo. Le plaisir, il est là, mais l'acte bon n'est pas forcément là. Quoi. Donc, comment interpréter justement ce genre de situation?
Ouais. Ça, pour le coup, vous voyez, c'est vraiment l'enjeu du discernement de chacun. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, prendre un verre de vin rouge ou jouer à un jeu vidéo, vous voyez, l'acte en soi est neutre. C'est pas un acte mauvais que tu vas faire. Il y a un plaisir qui en est retiré. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, tu vois, c'est pas la même chose si tu vois que t'arrives plus à te contrôler. En fait, c'est ce qui fait que tu vas jouer aux jeux vidéo alors que en fait t'es censé prendre, je sais pas, travailler par exemple, t'es censé t'as un devoir à rendre pour le lendemain, t'as une réunion à préparer, t'es censé la préparer, et qu'en fait t'as tellement envie d'avoir ce plaisir là de jouer aux jeux vidéo que du coup tu vas pas faire ce que t'es censé faire et que du coup tu vas passer ton 2 heures à jouer aux jeux vidéo. Et ben là, tu vois, c'est cet attrait là de la concupiscence qui fait que tu vas être attiré par ce bien là, par ce plaisir là. Et qu'en fait tout ton discernement va être complètement biaisé. Donc, mais vous voyez, ça c'est vraiment l'enjeu ensuite de notre vie chrétienne. Quand on grandit, la vie chrétienne, c'est vous voyez, de mettre de plus en plus notre vie sous le regard de Dieu. Qu'est-ce qui est bon, comment je vais poser des actes qui sont bons. Et on aura le temps d'y revenir. Je termine simplement
sur la question de la mort. Je vais faire une petite référence. Est-ce que la mort est la conséquence du péché? La réponse dans saint Paul, c'est oui. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Il rajoute aussitôt, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors c'est la mort telle qu'on l'expérimente, comme expliquait le père Marc-Antoine, comme une séparation, un drame, voilà, non pas un passage immédiat de cette vie à l'autre, puisque notre corps, il est séparé, il n'est pas fait pour être séparé de notre âme, il va l'être pendant un moment, bon. Au cimetière, voilà, bon. Mais dans ce lieu même de la fragilité, il y a un don incroyable qui nous est donné. C'est-à-dire que le Seigneur retourne par sa miséricorde nos péchés, y compris les conséquences de notre péché, pour nous faire entrer dans la vie éternelle et nous ouvrir à l'espérance de la résurrection.
Alors, je vous invite sur la dernière page. Vous savez, je vous ai mis une petite photo d'un saint qui s'appelle Saint Charles de Foucault. C'est vrai que d'habitude, on finit par un petit témoignage. Là, je voulais simplement vous partager le témoignage donc, de cet homme, Charles de Foucault, qui est un saint qui a fait une expérience assez incroyable et qui est vraiment en lien avec ce que l'on vient de voir aujourd'hui. Vous voyez, j'ai un petit extrait. Il raconte sa conversion. Je vais le lire et puis ensuite, je vous en dirai 2-3 mots de façon plus générale sur lui. Mais donc, c'est une lettre qu'il écrit. Il dit, en me faisant entrer dans son confessionnal, un des derniers jours d'octobre, entre le 27 et le 30, je pense, « Vous m'avez donné tous les biens, mon Dieu. S'il y a de la joie dans le ciel à la vue d'un pécheur se convertissant, il y en a eu quand je suis entré dans le confessionnal. Quel jour béni, quel jour de bénédiction. Vous m'avez mis sous les ailes de ce saint prêtre et j'y suis resté. Vous m'avez porté par ses mains et ça n'a été que grâce sur grâce. Je demandais des leçons de religion. » Il me fit mettre à genoux et me fit me confesser. Cet homme, Charles de Foucault, c'était un homme qui était militaire, qui était très concupiscent. Donc il a une vie assez dissolue. Et en gros, il va se poser des questions. Et notamment, le début de sa conversion, ça va être, alors qu'il est justement en Algérie, de voir des musulmans prier. De voir des musulmans en train de prier. Et ça va ouvrir son cœur, en tout cas, à cette question de Dieu. Et alors qu'il est à Paris, il va entrer dans cette église pour demander au prêtre là, dont il parle des leçons de religion. En gros, il veut lui poser ses questions en disant bon, est-ce qu'il arrivera à répondre à mes questions ou pas. Il arrive et en fait, le prêtre lui demande de se confesser, de se mettre à genoux. Et vous voyez ce qui est beau, et c'est pour ça qu'on en parlait, qu'on voulait en parler ici, c'est que vous voyez le lieu même de nos fragilités, le lieu même de nos péchés, le lieu même de la rupture, de notre rupture avec Dieu, et le lieu par lequel le Seigneur vient nous rejoindre, et le lieu par lequel le Seigneur vient nous convertir, vient nous retrouver pour nous remettre dans son alliance. Quelque chose d'assez mystérieux, et qu'on voit bien chez Charles de Foucault. Quand Charles de Foucault reconnaît ses péchés, donc reconnaît qu'il est en rupture d'alliance, entre guillemets, quand il reconnaît, vous voyez, qu'il n'a pas été fidèle à cette alliance que Dieu avait voulu pour lui, comme pour chacun, et bien à ce moment-là, c'est là où Dieu se donne totalement à lui et qu'il peut de nouveau être rétabli dans cette alliance. Vous voyez, il y a vraiment un enjeu pour nous, vous voyez, d'accueillir aussi ces lieux de rupture, de division en nous, avec les autres, avec Dieu, avec la création, non pas simplement comme, vous voyez, des erreurs qu'on porterait, dont on ne saurait pas quoi faire, et dont on porterait une culpabilité qui nous empêcherait d'avancer. Mais parce que Dieu, vraiment, et c'est vous voyez, ce qu'on verra, ce qu'on va continuer de déployer par la suite, Dieu vient nous rechercher, où es-tu ? Et Dieu vient nous renouveler, nous remettre dans l'alliance. Ça va ? Alors, on vous a laissé trois petites questions, pour notamment vos temps de frat. Ah, c'est fini. Oula, pardon. Bon, autant de phrases, je les lis rapidos. Ai-je déjà fait l'expérience de Dieu qui venait me chercher alors que je m'étais éloigné de lui? Comment les quatre ruptures fondamentales liées au péché originel me rejoignent-elles dans mon expérience personnelle? Et enfin, notre vocation est d'être fils et filles de Dieu. Comment grandir au quotidien dans cette vocation? Je vous ai mis aussi, donc je vous invite à relire ces textes-là, le chapitre 3. Il y a aussi le chapitre 4 dont je n'ai pas parlé, mais qui déploie encore plus les conséquences du péché, mais notamment avec Caïn et Abel. Et aussi une vidéo YouTube sur cette question du péché originel, qui est assez intéressante. Voilà, on va finir par une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et en te rendant grâce de venir nous chercher, toi qui nous cherches, même quand nous éloignons de toi. Merci de nous avoir donné ton Fils. Merci pour ce cadeau du baptême qui va nous rétablir dans l'alliance avec toi. Merci de faire de ces lieux de division, de ces lieux de chute, des lieux par lesquels tu viens nous rechercher. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.